8h dans le bureau de Par Jupiter.
Ta deuxième semaine de rentrée, Charline nous convoque à 8h du matin, quoi.
Bah, va pas le faire au mois de juin quand la saison sera finie.
Bah, toi, au salon de la Fayotte, tu tiens un stand, on dirait.
Ah, vous êtes là. Bon, oui. Alors prenez des notes parce que j'ai une idée de génie.
Ah, bah, là, autre chose, tiens.
Voilà, désormais, pour bien préparer l'interview, on commencera la journée par un petit échange informel sur ce que nous évoque l'invité.
Ah, génial.
Bah, faudra penser à réévaluer votre échelle du génie.
Ah, Guillaume, oui. Le mauvais esprit, c'est pour après l'échange informel, ok. Bon, bref, aujourd'hui, on reçoit Julie Gaillet.
Et donc, on dit comme ça, clac-clac, ce qui nous vient.
Voilà. Et oui, à qui ou à quoi vous pensez si je vous dis Julie Gaillet?
Bon, bah là, ça me paraît évident.
Non, Julie... on va plutôt commencer par Juliette.
Ouais. Ah,
non,
mais, alors, moi, je dis Delphine à Yvon Zéro.
Ah oui.
C'est la scène où elle dit tu sais faire comme ça avec ta main. Bon, bah alors, techniquement, tu sais reboucher un tube de dentifrice.
Ah,
j'adore.
Mais,
c'est tellement.
Moi, ce que j'adore, c'est Quai d'Orsay, moi.
Mais non, mais c'est pas le Quai d'Orsay, tu te trompes d'endroit. Julie Gaillet.
Le film de Tavernier, Romalin. Et à ses débuts, elle a également tourné pour Agnès Varda.
Non, mais sérieux, vous pensez à Agnès Varda avant de penser.
Guillaume, on t'a dit d'arrêter avec le mauvais esprit, s'il te plaît.
Et puis, il y a aussi son engagement en faveur des femmes.
Voilà, d'autant qu'il y a un rapport avec la série où elle joue. Donc, vous voyez l'intérêt de cette petite séance d'échange informel?
Je vois, ouais, ça sert à baliser les sujets de discussion qu'on pourra aborder.
Mais pas du tout.
Et si j'ai envie de lui parler du président?
Ah bah, t'as qu'à lui demander ce qu'elle pense d'Emmanuel Macron.
Mais je parle pas de Macron, évidemment, je parle à.
Mais bon, maintenant tu t'arrêtes, Guillaume, parce que t'es vraiment très très relou là.
Non, mais c'est vrai que t'es relou. On n'invite pas une actrice pour lui parler de sa vie privée, enfin.
Mais c'est même pour ça qu'on a écrit le petit sketch d'intro là, comme ça on évacue tout de suite le sujet.
Mais attends, mais moi je savais pas qu'on était dans le sketch là.
Bah si, regarde la ligne suivante dans le texte. T'es au courant en fait.
Ah oui, exact, je suis au courant.
Mais c'est marqué sur le texte. Ouais, bah donc pourquoi depuis tout à l'heure tu nous saoules avec.
Avec Agnès Varda, avec Tavernier. Je peux quand même lui demander si elle aime la pluie.
Bonjour la France Inter, bienvenue chez les Joyeux Saltimbanques, dont voici la devise. Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules de Yannick Jadot. Voici le sommaire, Juliette Arnaud.
Le bon vieil état texan fait à nouveau des siennes dans son domaine de prédilection, après faire jaillir du pétrole, de la musique country et du rodéo, pourrir la vie des femmes et en l'occurrence ne plus leur permettre d'avorter après 6 semaines de grossesse. Le gouverneur du Texas a dû se lever un matin et dire à son cabinet...
Vous ne trouvez pas qu'elle aurait tendance à nous faire chier?
La performance est-elle un vilain défaut ou une qualité? Ça dépend si vous êtes plutôt de droite ou plutôt de gauche peut-être. Et la société de la performance commence-t-elle dès l'école?
Tu voudrais pas être chômeur toi quand tu seras plus grand?
Non, je voudrais pas être chômeur quand je serai grand, je voudrais être chômeur maintenant.
À la maison, qui tient la télécommande de la télé aujourd'hui? C'est Disney, Amazon ou Netflix. Ils se sont entendus avec les constructeurs de téléviseurs pour avoir leur gros bouton sur le boîtier et parfois même faire disparaître le pavé numérique. Si vous ne me croyez pas, venez voir avec moi dans une grande surface.
Oh bah on sait bien que si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écran plat plus importants au mois de septembre.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, une équipe digne d'un thriller, avec d'abord celle qui est la reine du mystère et de l'intrigue. À l'intérieur de nous, tous, la même prière. Est-ce que, mon Dieu, je vais savoir de quel musicien, quelle musicienne elle va me causer aujourd'hui? Et puis la réponse, c'est généralement non. Mais la prochaine fois, peut-être. Voici Mélanie Bauer.
Bonjour, c'est pas vrai, Thomas VDB, il a dit j'adore.
Oui, mais c'est Thomas VDB, c'est ça compte pas, l'hétérocritique.
C'est Loïc Lantoine avec Marc Namour, La Canaille.
Ah oui, même moi je connais. Ah, c'est bon, aujourd'hui c'est mainstream.
Ça va. Vous voyez ce moment atrocement gênant où le héros d'un film thriller fouille le bureau d'un dangereux méchant et où le dangereux méchant arrive et le héros lui continue à fouiller. Et bien c'est ce que nous ressentons tous quand il s'approche avec son micro et que les gens ne s'enfuient pas. Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous. Mais moi je suis allé à la rentrée des jeunes Les Républicains. Ouais, plein de jeunes de droite réunis autour d'un seul mot d'ordre.
C'est la droite qui innove, c'est la droite qui est moderne, c'est la droite qui invente. C'est ça aussi la droite du panache.
Oh, la droite du panache, c'est d'une beauté.
Cyrano de Bergerac vient de faire un flip dans sa tombe. C'est le prix à payer quand on a baigné dans le monde du rock'n'roll et ça, forcément, Guillaume Meurice n'en sait rien, parenthèse perfide. Quand celui-là du Maurice attaque sa chronique, les auditeurs sont pris par un frisson. Thomas VDB va-t-il chanter son début de chronique? Bonjour Thomas.
Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver. Alors moi aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Bah non, je rigole, j'aurais jamais eu le temps de l'écrire. Non, je vais vous parler du 11 septembre. C'est pas beaucoup plus rigolo.
Il y avait 20 ans pour l'écrire, ça va, c'est bon.
Mais c'est vrai. Et voici celle qui va nous ambiancer. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Julie Gaillet.
Mais oui.
Bienvenue.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bonjour Julie Gaillet.
Bon alors je vous rassure, oui. J'aime la pluie. Surtout à Tulle.
Ah ben voilà, vous posez la question. Ben oui, mais on se demandait.
Votre mauvais esprit, on a vu. Julie Gaillet, vous venez nous parler d'une série intitulée Parfaite sur TF1 qui est déprogrammée ce soir, qui sera reprogrammée, on va en parler bien sûr.
Une mère parfaite.
Une mère parfaite.
Ouais.
Parce que.
Déprogrammée parce que Jean-Paul Belmondo voilà. Passe avant tout.
Évidemment.
Et qu'on est tous un peu bouleversés, que c'est vraiment. La journée commence mal. Hein. Je ne sais pas si on va avoir envie de rigoler. Peut-être Thomas bah, Bébé, tu ne veux pas nous faire une petite.
Avec le 11 septembre, ça va être facile.
D'après Charlie Chaplin,
non,
l'homme
dur,
n'est jamais aussi drôle que face à la mort. Donc on va essayer un peu.
Ouais. Mais puis on l'aimait
voilà,
vraiment.
Donc
c'est l'itinéraire d'un enfant gâté qui passera ce soir sur TF1. Mais
voilà.
Bientôt une mère parfaite.
Oui, bien sûr. Alors voilà. On va en parler, mais d'abord un mot. Vous avez joué avec Jean-Paul Belmondo dans un film d'Agnès Varda.
Oui, il était passé sur le tournage des 101 nuits, qui était donc vraiment un de mon premier long métrage. Je venais de commencer comme comédienne. J'étais entre Piccoli et Marcello Mastroianni. C'était déjà assez formidable, incroyable. Et c'était fou ce film, puisque c'était sur le centenaire du cinéma. Et Agnès Varda invitait les acteurs, ils passaient tous. Et Belmondo. Et j'ai passé une journée, mais formidable. Il est drôle. Et puis tout à coup, je le regarde de plus près, je dis, mais c'est incroyable, vous avez les yeux verrons, comme David Bowie. Il me dit, ah oui, personne ne s'en rend compte. Et donc, il a un œil vert
même
et un œil bleu,
Welch.
Très léger. Et c'était assez surprenant, j'avais jamais remarqué. Donc, je sais pas si vous aviez remarqué.
Non.
Donc, il avait les yeux verrons. Et voilà, on a passé une journée de tournage où il jouait un toréador. Il était assez... voilà, il est assez rigolo.
Un
il
vrai,
beaucoup
pas comme
d'humour.
Celui du singe en hiver.
Beaucoup d'humour.
On en retouchera un mot tout à l'heure, à l'occasion, bien sûr, Julie Gaillet. Alors, on parle d'une mère parfaite. C'est un thriller en 4 épisodes qu'on pourra voir bientôt sur TF1, on vous informera.
Oui, deux soirées, quoi, en fait,
ouais,
c'est
voilà.
ça.
Qui démarre à Berlin, où vit votre personnage, Hélène, et elle va plonger en un coup de fil dans un cauchemar quand sa fille, qui, elle, vit à Paris, est soupçonnée de meurtre. Et les faisceaux d'indices concordent pour dire qu'elle ment. Elle s'appelle Anya, elle a suivi un type en boîte qui s'avère être un riche héritier. Il l'a violée, elle a perdu connaissance et lorsqu'elle revient à elle, il est mort, poignardé. Il y a une intrigue d'une efficacité redoutable et aussi un contexte social. Et quand on vous connaît vos engagements, nous, en tant que spectateurs et spectatrices, on imagine que le reflet de la société, comment cette série traite la société, a dû vous convaincre de vous impliquer. Alors comment cette série, Une mère parfaite, de quelle manière sont traités les sujets brûlants de société? Sachant qu'on est aussi sur TF1, il faut que ça reste familial.
Mais non, mais alors, d'abord, c'est, je pense, le pire cauchemar d'une mère, c'est qu'on a petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes, et c'est vraiment que vos grands-enfants sont sortis en boîte, et tout à coup, le lendemain matin, on vous appelle, ils sont au commissariat, et ça a mal tourné, est-ce que c'est la drogue? Donc déjà, simplement, ça, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la série, on parle de GHB, est-ce que moi, quand je sortais, quand j'étais jeune, on parlait déjà de la drogue du violeur? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Ça, c'était assez fort, quand j'ai lu ça dans le scénario. Je me suis dit, c'est fou, quoi. On est vraiment dans une nouvelle époque où les mômes savent ce que c'est quand même. Le GHB, font gaffe à leur verre, ou quand ils posent leur verre. Et vous parlez du viol, mais en fait, vous venez de spoiler le début, un petit peu.
Vous avez parlé de GHB, donc déjà, vous m'avez aidé.
J'ai rebondi. Mais en réalité, mon personnage ne sait pas au début ce qui lui est arrivé, découvre déjà que c'était dans une fête, et alors ça joue sur tous ces clichés que les jeunes filles ne peuvent pas aller en boîte, boire, être en mini-short, sur le cliché de, bah, elle l'a bien cherché quand même. Voilà, donc ça joue aussi sur les clichés de la société, sur la place des femmes et aussi de la mère, puisque mon personnage, qui se veut une mère parfaite, le titre, a tout abandonné sa carrière pour élever ses enfants en pensant être une mère parfaite. Et moi, je suis convaincue que ben, les mères parfaites...
vont en enfer.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu entre les deux, quoi, entre peut-être sa vie professionnelle et ne pas sacrifier complètement. Donc, elle va vraiment, évidemment, tomber des nues et évidemment, ne connaîtra pas tout à fait sa fille.
À propos de mère, ouais, Juliette.
Vous êtes mère, mais, détail qui a son importance, vous êtes mère dans la vraie vie de deux garçons. Et là, vous avez l'opportunité de jouer une mère qui est dans la pire des situations, hein, puisqu'elle vient d'avoir un coup de fil qui dit « Oui, allô maman, je suis en garde à vue pour meurtre, bisous, bon anniversaire. » Celui qu'on a tous envie d'avoir. Quand vous vous êtes retrouvé à lire le scénario et ensuite à jouer avec la jeune comédienne, est-ce que vous, ça vous a fait une espèce de trouille rétrospective? Vous vous êtes dit, merci mon Dieu que j'ai pas eu de fille.
Non, je regrette toujours de me dire, oh zut, j'ai pas eu de fille. J'aurais adoré avoir une fille. Non, mais que effectivement, c'est pas la même chose d'avoir une fille ou un garçon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait que quand on a deux enfants, si on a une fille, on est plus inquiet et on a peur de ça, ce qui est quand même fou de se dire qu'on vit dans une société où aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a pas égalité, c'est pas tout à fait pareil. Et par rapport à ça, les femmes sont conscientes qu'elles doivent, j'allais dire, sacrifier leur sécurité pour la liberté ou leur liberté pour la sécurité. Enfin, cette espèce de sensation où on se dit, si je pars en autostop toute seule, peut-être que ça peut être dangereux quand même, et donc peut-être qu'il peut m'arriver quelque chose, alors qu'un garçon ne se poserait pas cette question de la même manière.
Oui, mais à contrario, est-ce qu'on dit à un homme qu'on éduque, il y a des choses à faire, que toi tu peux faire en tant qu'homme, en tant que jeune homme, pour pas que les filles participent au fait que les filles aient pas la trouille, justement.
Je pense que le MeToo, l'idée de partager, de dire, cette espèce de libération de la parole, c'était avant tout pour dire ça, pour dire aux garçons, peut-être, vous ne vous rendez pas compte, et ça a été tellement énorme, cette vague de témoignages de filles qui racontent toutes, en tout cas, c'est 81% en France de filles qui se sont fait agresser, harceler dans l'espace public. C'est énorme. Et donc, peut-être d'une prise de conscience. Moi, je sais que mes fils, évidemment, ils sont élevés avec ça. Et malgré tout, ont des copines, des amis qui ont été agressés ou ont eu des relations toxiques avec des types qui les frappaient à 18 ans. Donc, on parle de ça. Mais après, là, on parle des violences sexistes et sexuelles. Mais il y a cette idée du poids de la société sur les femmes. Et c'est ça qui est beau aussi dans Une mère parfaite, c'est que mon personnage, c'est le poids de la société, c'est le fait d'être une mère parfaite. Et ça, en Allemagne, par exemple, c'est assez incroyable. Les femmes qui n'élèvent pas leurs enfants de 0 à 5 ans, c'est des mères corbeaux. C'est quand même fou. Donc, il n'y a pas de crèche. C'est où tu travailles, où tu élèves tes enfants, mais c'est pas les deux. Et donc ça, cette pression de la société pour dire que c'est la mère qui est responsable, c'est elle qui porte cette responsabilité, fait que les mères, enfin les Allemandes, ne font pas d'enfants, ou elles travaillent, ou elles font des enfants. Et ça, c'est le poids de la société.
Et c'est d'ailleurs une coproduction allemande, une série Une mère parfaite, à voir donc prochainement sur TF1, notamment avec Thomas Sisley ou Eden Ducourant, qui joue Anya, votre fille.
Qui est incroyable, voilà. Incroyable, parce que là, vraiment, d'épisode en épisode, elle revit, et vous allez voir, c'est jusqu'au bout du bout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça joue sans cesse de tous ces clichés sur les femmes.
Réalisation Carole Noble, à voir prochainement sur TF1. Donc Julie Gayet est en notre compagnie, ainsi qu'Aerosmith, Walk This Way sur France Inter. Mais oui, il y a du beau monde, c'est fou.
Par Jupiter sur France Inter avec Julie Gaillet. Et pour l'entourer, Juliette?
Eh bien, une équipe de gens qui sont des vrais musiciens. Mélanie Bauer, Thomas VDB et quelqu'un qui n'est pas musicien, Guillaume Meurice.
Il n'est pas journaliste non plus, vous allez l'entendre.
Je suis quoi, en fait?
Je veux dire, les discours n'ont aucun impact sur moi. D'ailleurs, ni même sur les Français. Bon. Ce qui compte, c'est les actes. Donc moi, j'ai un projet qui est inclassable.
Le journal de presque 17h17.
Oublie le langage des voyous maintenant que tu reviens chez les poulets.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera d'Arnaud Montebourg.
Qui sera donc question de courge.
Bah non, de melon.
Ah là-bas. Oui, autant pour
bah
moi.
Oui. Oui. On parlera aussi de François Fillon.
Ah donc, voilà, là on parlera de courge.
Non, d'Éric Ciotti.
Ah fait. Oui, autant, parce que j'arrive pas à faire la différence entre les deux.
Et enfin, on parlera des écologistes.
Là, on parlera de courge.
Oui, là oui,
voilà.
Mais bio. Allez.
Bio, voilà. C'est bien qu'il y ait des courges quelque part. Alors, on commence par la politique.
Oui, la présidentielle 2022, Anne Hidalgo devrait annoncer sa candidature le 12 septembre.
Oh là 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 là, Charline ! Mais quelle surprise ! Mais je tombe des nues. Hein.
Non mais Guillaume, c'est dimanche prochain, c'est pas aujourd'hui. Donc.
Oh non, mais quelle déception, Charline ! Comment je vais faire pour gérer cette attente insoutenable ?
Peut-être prendre des cours de comédie ?
Ouais, peut-être.
Ouais. Politique toujours, c'est officiel, l'apiculteur Arnaud Montebourg est candidat à la présidentielle.
Alors déjà, bon bah ça c'est marrant, c'est une info marrante en soi, mais c'est pas tout, le slogan c'est...
La remontada de la France.
Voilà, et on a une pensée pour tous les conseillers en communication morts pour la France.
Morts pour la remontada.
La remontada de la France. De la France. Allez. Écologie à présent.
Oui, invité ce matin sur LCI, Éric Piolle, le candidat à la primaire écolo, a déclaré, je cite, « Tout le monde s'en fout des sondages ».
Oui, il aurait ajouté également d'ailleurs « Tout le monde s'en fout de la primaire écolo ».
Oui, et tout le monde s'en fout d'Éric Piolle.
Tout le monde s'en fout de LCI.
Voilà,
limite,
allez. Hein.
Voilà, on s'en fout.
Et enfin, une idée a fait parler d'elle ce week-end, sanctionner d'une amende de 1000 euros tout consommateur qui fumerait un joint.
Oh là là, ouais, ils attaquent fort les talibans là.
C'est pas les talibans, c'est Éric Ciotti.
Éric Ciotti. Ouais. Ah, c'est celui qui a déclaré qu'on s'acharnait sur Nicolas Sarkozy et François Fillon.
Ouais, c'est lui. Ouais.
Ah, ok. Bon, de toute façon, j'y comprends rien de façon à la charia.
C'est mais c'est pas la charia.
Ah oui, c'est pas la charia. Allez. Oui, mais j'arrive pas.
D'ailleurs, en cas de second tour, ouais. Zemmour, Macron, Éric Ciotti a déclaré qu'il voterait pour Éric Zemmour.
Oui, je crois qu'il a ajouté qu'il voterait Zemmour en cas de second tour, Pécresse Zemmour aussi.
Ouais, et en cas de second tour, Marine Le Pen,
oui.
Zemmour également.
Oui, en cas de second tour, Éric Ciotti, Zemmour aussi.
Ah, c'est beau la fraternité.
Ah, c'est beau. Sororité à présent.
Oui, Sonia Mabrouk a interrogé Marlène Schiappa hier sur Europe 1.
Sonia Mabrouk, pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuses? Pourquoi est-ce qu'on est là? Genre, à un moment, il y a des choix qui sont faits. Les choix, ils sont faits parce qu'on montre à ces jeunes qu'il y a d'autres voies possibles.
Bah alors, c'est quand même pas compliqué à comprendre, les jeunes, hein. Faut faire des choix. Voilà, dealer ou alors vous faites paillasson de Bolloré ou Macron. Bah, c'est des choix de vie.
Oui,
voilà.
Prenez VDB, à un moment, il a fait un choix entre chroniqueur ou dealer.
Non, c'est pas un bon exemple, Charlie.
Oui, non, on enchaîne.
Oui, on enchaîne avec Schiappa, toujours.
Oui, afin de poursuivre la lutte contre les violences conjugales, Marlène Schiappa organise en ce moment une conférence inversée où les policiers écouteront les témoignages de victimes.
Ah, des policiers qui sont obligés d'écouter les témoignages de femmes victimes de violences, vous dites?
Oui.
Ben dis donc, Marlène, elle a deux doigts d'inventer le dépôt de plainte.
Je le crains. Et on termine avec une info internationale. Au Pays de Galles, une pétition officielle réclame que l'on ajoute un pénis au dragon qui orne le drapeau du pays.
Je crois que les polémiques sur la chloroquine me manquent. Voilà, je préférais, je suis désolé.
Avec nous, Julie Gaillet, et prochainement la série Une femme parfaite. On aura l'occasion d'y revenir avec les sujets d'actualité. Et le premier que vous avez choisi d'ailleurs, Julie Gaillet, Juliette Arnaud.
Depuis 1973 et l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême, les femmes américaines peuvent avoir recours à un avortement à peu près paisiblement. Sauf que le Texas vient de voter une loi qui empêche les femmes texanes passées 6 mois de grossesse de le faire. Et la Cour suprême refuse pour le moment de bloquer la loi car elle ne vise pas les femmes, mais ceux qui les aident. Du médecin au chauffeur de taxi, en proposant même des primes à tout citoyen ayant une âme de capon. Biden a dit qu'il n'était pas content, une révolte numérique se met en place, mais nous les femmes, on sait depuis minimum 1991 que le Texas, c'est pas pour nous.
On pourrait rattraper la 81 là, et continuer vers Dallas.
Non, je veux pas traverser le Texas, trouve un chemin qui ne nous force pas à traverser.
Attends. Quoi? Tu veux aller au Mexique, au départ de l'Oklahoma, mais tu veux pas traverser le Texas?
Thelma, tu sais que je fais un rejet à propos du Texas. Non, j'en refuse d'y passer.
Oui, je sais, Louise, mais c'est notre vie qui est en jeu. Franchement, tu peux pas faire l'exception, je sais pas. Regarde ce machin, merde. Le seul truc qui passe entre l'Oklahoma et le Mexique, c'est le Texas. Regarde, je ne peux même pas en discuter davantage. Alors, ou tu trouves un autre chemin, ou tu me donnes cette carte de merde et moi je trouverai. C'est compris?
Est-ce que vous avez reconnu le film dont
il y avait des agisses.
Il y avait quand même Thelma et Louise avec Suzanne Sarandon qui est une vraie activiste féministe qui a justement publié sur Twitter un petit mot qui était assez fort sur le fait que on ne peut pas bannir l'avortement mais finalement on bannit l'accès à l'avortement et c'est toujours celles qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens, qui n'auront pas accès puisque les autres elles pourront toujours aller voyager dans d'autres états. Donc finalement c'est tout à fait juste votre elles iront à côté.
Elles iront voilà, elles iront.
Donc ça touche toujours voilà.
Sachant que l'État, le Texas est un État immense en taille, donc pour pouvoir aller à côté, il faut avoir
les moyens.
Il faut vraiment avoir les moyens, ouais.
Voilà, donc c'est toujours celles qui n'ont pas les moyens. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs entre l'Uruguay et l'Argentine. Là, l'Argentine, maintenant, la loi vient de passer cette année. Et ça, c'était une vraie grande victoire sur l'avortement. Entre le moment où l'Uruguay avait fait passer la loi, où tout à coup, en passant la loi autorisant l'avortement, il n'y avait plus aucune femme morte. Il y avait eu un cas parce que ça s'était très très mal passé, c'était très compliqué. Et en Argentine, on avait encore 300 mortes, femmes qui mouraient chaque année parce qu'elles se font de toute façon avorter d'une manière qui sont, c'est ce qu'on a connu en Europe avec les aiguilles à tricoter. Et donc elles le feront de toute façon. C'est juste la façon dont elles le font, c'est de manière safe, sécure. Et donc ce que dit Suzanne Sarandon, c'est que c'est toujours, ça touche celles qui ont les classes sociales les plus basses.
C'est vous qui avez choisi ce sujet.
Ouais.
Les États-Unis, c'est pas un pays en retard ne serait-ce que par rapport à la France. Le droit à l'avortement, c'est 73, nous c'est 74. Le droit de vote des femmes, c'est 1920. Nous en France, il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas un pays en retard dans les droits des femmes en général. Sauf que très régulièrement, effectivement, il y a des coups assez puissants qui sont portés contre les droits des femmes. Est-ce que ça vous inquiète aussi parce que vous avez la trouille que tout ce qui arrive aux États-Unis finit à un moment ou à un autre par arriver à la France?
Oui, et d'une certaine manière, c'est la continuité de Trump, puisque c'est Trump qui a donc mis là les trois juges de la Cour suprême et qui décident, à la mort de cette grande féministe Ruth Bader Ginsburg. Donc, c'est surtout que la campagne de Trump a été une campagne d'une misogynie hallucinante. On se souvient de ces phrases de « When you're famous, you can grab them by the pussy », là. Quand vous êtes connu, vous pouvez les prendre par la chatte, les filles. Mmh. Elles vous tombent dans les bras. Ça a créé cette Women's March, qui a quand même fait ce grand mouvement. Et il attaque vraiment frontalement. Et donc, c'est une volonté de remettre en question les droits des femmes fondamentaux. C'est une question politique. Et le problème, c'est ça, c'est que ça donne des idées à d'autres et que ça... c'est comme Trump, on a Bolsonaro pas très loin qui est arrivé derrière et c'est ça qui est terrible, je trouve, aujourd'hui. C'est cette parce que malheureusement les droits des femmes c'est un peu partout que ça s'attaque et ça commence à être grignoté à l'international comme contre, j'allais dire, la société occidentale. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en ce moment un peu compliqué sur la place de la femme.
Et c'est dur de gagner du terrain, mais c'est très facile d'en perdre, généralement.
Oui, c'est ça.
Julie Gaillet.
Parler de foot, après.
Oui, effectivement.
Du beau jeu.
Ou de musique, pour nous adoucir un petit peu l'ambiance.
Je suis pas sûre que ça va être plus doux.
Ah, comment ça? Mais pourquoi? Mais non, c'est de la musique. Mélanie Bauer.
Ouh, la vie, c'est pas facile. C'est du beau scénario, pour la fiction, les frictions. On vénère les héros, les escrocs, on se rassure d'être moins loser que les perdant de la télé-réalité, mais avec tout cela, souvent, on oublie la poésie. Heureusement, il y a des voix tangentes, des artistes qui embrassent l'échec de toute sa beauté, comme ici Marc Namour et Loïc Lantoine avec les musiciens de La Canaille sur le disque Fier et Tremblant.
La vie arrache les dents, elle fabrique des dentistes, elle tue ce qu'elle anime pour la joie du fleuriste. Mais une colère copine nous réveille, on persiste, nos yeux débarbouillés nous révèlent la piste. Puisqu'elle est mère de tout, elle n'est pas dégueulasse. Sûrement elle nous chahute pour qu'on se parle d'opinion. Si jamais je me lasse, c'est tout droit que je me casse. À mon avis, la vie, à mon avion, l'avion.
La vie arrache les dents et ça fait des dentistes. On adore. Mais aussi des artistes. Le rappeur Marc et le chanteur Loïc se rencontrent en 2010 à Paris au Bataclan à l'occasion d'un concert en soutien au journal L'Humanité. Et oui, on a toujours besoin de la gauche. Et c'est le début d'un chemin qui cherche à faire le pont entre le rap et la chanson. Une collaboration qui s'extirpe du drame pour trouver la fantaisie.
Leur monde est de plomb, je veux couper les ponts, couper l'image, couper
couper le son. Trouver les mots, laisse-moi trouver le ton. Me fous des règles et du qu'en dira-t-on. J'suis dans mon royaume, dans ma galaxie. Mon jardin, mon coin, le paradis. J'veux du doux, du moelleux pour les mal assis. C'est mon hymne à la vie. Je veux du soleil à faire plisser les yeux, de la folie à faire criser les vieux, voir enfin la morosité quitter les lieux. Je veux friser les cieux, irrévérencieux à faire flipper les dieux. Rouler à fond, je veux griller les feux. Dire au patron, vous êtes virés, messieurs. Fantaisie, besoin de fantaisie.
Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-t-il des pertes triomphantes à l'envi des victoires. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Montaigne. C'est quand même un peu mieux écrit.
Ouais, je me disais aussi, tiens.
Qui hante l'esprit de ses chansons. On a besoin d'entendre en prose, en rime ou en image que le monde n'est pas noir ou blanc, qu'on peut être fier et tremblant. La gloire est aussi aux perdants.
Aux artistes refoulés qui n'ont pas confiance. Sans du talent mais n'en ont pas conscience. À tous ceux qui ont de la poésie en abondance, mais dans le feu s'éteint bêtement à mon sens. Aux amoureux qui se cachent pour s'aimer, à ceux qu'on traite de goudou ou de pédé, à la mémoire de ceux qui craquent dans la mêlée, à celles et ceux qui s'organisent pour pas céder. Aux reines qui font parler les douilles dans un monde régi par des couilles.
Eh oui, le monde régi par des couilles, on y revient toujours. Marc Namour, rappeur de la Canaille originaire de Beyrouth, rencontre Loïc Lantoine, chanteur de Bistrot originaire de Lille, sur des beats électro. Ils font couler l'espoir, célèbrent les failles et tous les gens qui doutent. Avec encore une fois, je ne sais pas, elle est partout en ce moment, pourtant elle n'est plus là, Anne Sylvestre. Les gens qui doutent, c'est sur l'album qui sort le 17 septembre prochain, Fier et tremblant.
Marc ? Ouais, c'est Loïc, là. Je suis rentré à Lille, là. Écoute, j'espère que tout va bien. Moi, ça va. C'est juste, tu sais, c'est super qu'on bosse ensemble. Je trouve ça vraiment génial. Tu me fais rentrer dans le rap game. Je trouve que j'adore le smurf et tout. Et en même temps, tu m'as appelé direct. Tu sais, on est des copains, quoi. Donc, j'ai dit oui. De tout mon cœur, hein, parce que. Mais j'ai pas osé te le dire, parce que je savais pas comment te le dire. J'espère que tu vas pas mal le prendre, hein. Mais la supercherie a assez duré, tu sais, Marc. Je suis pas un vrai rappeur.
J'aime les gens qui doutent, les discrets, les silencieux, vieux, ceux que personne n'écoute, ceux qui se perdent en cours de route, ceux qui passent entre les gouttes, les réservés. Ceux qui marchent en dedans, j'aime ceux qui groovent sur un autre temps, un peu maladroit, un peu lent, ceux dont les appuis vacillent à contre-vent. J'aime ceux dont le nom dit en dit long, loin des slogans grandiloquents bidons. Ceux dont le nombril ne fait pas d'ombre, il s'efface, ni pigeon ni leader d'opinion. Ceux qui restent à l'écart quand l'assurance de l'arrogance avance, qui se questionnent en permanence. Ceux qui n'ont pas de réponse, ni fer de lance, à leurs yeux la grande gueule n'a guère de sens. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent. Ceux qui ne tirent pas la couverture, ceux qui brillent par leur ouverture. Ils ont la plume dont les lignes souvent se raturent, ceux dont les pieds ne sont pas sûrs. J'aime ceux qui tapent à côté, ceux qui se plantent, qui n'emmènent pas large quand ils retentent. La peur de mal faire les terrifie, les hante. Ceux dont la voix parfois déchante, eux, ils ne détiennent jamais de vérité. Sont toujours en retrait, tu peux le vérifier. Éternel apprenti rempli d'humilité. Eux, s'ils ne veulent pas la lumière, c'est par timidité. J'aime leurs soucis d'imperfection, leur hésitation à chaque nouvelle intersection. Leurs mesures, leurs tenues, j'aime leur perception, leur prise de recul avant l'interjection. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent.
Gens qui doutent. Je le fais moins bien qu'Anne Sylvestre.
Ah, non.
L'album sortira le 17 septembre. Fier et tremblant.
Merci Mélanie Boer. Julie Gaillet avec nous. On a appris le décès de Jean-Paul Belmondo. Quel est le film préféré ou vos films préférés de Bébel?
Moi, je les aime tous, mais évidemment, là, sur TF1, ce soir, vous avez Itinéraire d'un enfant gâté. Ah, alors là, évidemment. Ne le ratez pas, vraiment magnifique film.
Et
magnifique.
Oui. Et en lieu et place de la série Une mère parfaite, mais qu'on verra très prochainement sur TF1, réalisée par Fred Garçon. Voilà, avec Julie Gayet, notamment, Thomas Sisley ou Eden Ducourant. Et ce soir, le 18-20 est consacré à Jean-Paul Belmondo, chers amis, soyez à l'écoute avec Fabienne Sintès. Guillaume Meurice, il y a Gominard sur le côté petit polo.
Oui, là, on a...
j'ai passé un dimanche après-midi de taré, les amis. J'étais avec Léopold, Charles-Henri, Marie-Charlotte, c'était dingo, c'était la rentrée des jeunes Les Républicains. C'était génial, ils m'ont fait des cadeaux, regardez, une gourde Les Républicains, un tote bag Les Républicains. Vous avez le seum de ne pas y avoir été, hein. Ouais, j'y étais. C'était au Parc Floral, que vous connaissez sans doute, c'est la célèbre chanson. Le Parc Floral, ça me met à chanter.
Voilà,
on connaît, j'adore la chanson. Alors là, ils avaient une autre chanson, chanson qui s'appelle On est de droite, on écoute.
On est de droite.
Ah, vous pouvez la chanter.
On est de droite.
Vous pouvez chanter tous ensemble, vous allez voir. Allez, radicalisez-vous un petit peu. Allez. Voilà, c'était fou. J'ai vu plein de stars. J'ai vu Christian Jacob en vrai. Vous êtes dégoûté ou pas? Ouais, carrément. Alors, j'ai pas vu Bruno Retailleau parce qu'il était le samedi. Ah, et moi, j'étais dimanche.
Mais on a fait une sortie avec Bruno.
Oui, vous avez été à la messe le matin et puis voilà, un petit peu à Deauville l'après-midi pour la kiffance, comme on dit quand on est jeune, bien sûr. Voilà. Alors, le mot d'ordre cette année pour les jeunes Les Républicains, c'était la droite du panache. Voilà. Alors, le panache, attention, c'est pas la boisson alcoolisée qui fait mal à la tête quand on voit deux gorgées d'un coup, hein, quand on est un petit peu foufou. Le panache, c'est la droite du panache. Et ça, c'est le concept en entier. J'ai demandé aux jeunes Républicains qu'est-ce que c'est.
C'est la droite qui dit les choses et qui le dit qui le dit de manière claire, qui assume ce qu'elle dit, mais sans non plus rester fermée sur l'entre-soi.
C'est compliqué la droite du panache.
Oui, c'est compliqué.
Il faut youyouy. C'est ça me donne encore plus mal à la tête que le panache, du coup. Bon, alors, moi, comme je suis tout nouveau, je suis vraiment tout nouveau, les jeunes, les républicains, j'ai continué à chercher ce que c'était.
La droite du panache, c'est la droite qui s'assume, c'est la droite, comme l'appelait Jean-François Copé, qui est la droite décomplexée.
Qu'on peut faire des citations de Jean-François Copé comme ça?
Ça reste un très bon homme politique qui, de son temps, était super. Malheureusement, c'est un grand brûlé de la primaire également.
Ouais, un très grand brûlé de la primaire, hein, Jeff. Hein, c'est vrai qu'il avait mis une crème solaire, mais 0,3% d'indice. Donc, il s'est cramé la tronche. Pauvre Jeff, il nous allait regarder de là-haut. Hein. Petit ange du à poil la mamie, parti trop tôt. Allez, je me permets une légère digression, parce que je vois vous avez l'air un petit peu sceptique, vous n'en êtes. Mais comment on peut avoir 20 ans et faire des citations de Jean-François Copé?
En sautant les étapes, j'ai envie de dire. Souvent, on a des gens qui commencent à gauche dans leur jeunesse, puis avec le temps, ils se mettent sur le droit chemin.
Donc plus on vieillit, plus on devient de droite.
C'est un peu ça.
Ça veut dire que vous êtes déjà vieux, alors?
Bah écoutez, non.
Ah, mais c'est pas grave, mais si, mais c'est pas grave, on fait ça la maturité. Voilà, regardez la matinale de France Inter. Avant, elle était jeune, elle avait un idéal, à informer, faire réfléchir. Mais aujourd'hui, hop, voilà, on va droit au but. Polony de Vecchio, n'importe quel autre tabouret de PMU peut faire l'affaire. C'est ce qu'on appelle la maturité. On devient de droite en vieillissant, mais pas n'importe laquelle de droite. Attention, la droite. Droite du panache, qui est quoi d'autre?
La droite du panache, la droite du panache, c'est la droite qui s'assume, qui assume cette branche conservatrice qu'il y a eu au sein du RPR, par exemple, dans les années 90.
La droite du panache, c'est le retour au RPR?
C'est les programmes qu'il faut relire.
C'est la base, hein. C'est la base. Moi, je relis les programmes du RPR régulièrement, je les connais par cœur. Voilà, la privatisation du service public, les lois de Bré-Pasqua, c'était bien, ça aussi. J'avais un pins parlant, le bruit et l'odeur, voilà. C'était super. Ah, c'était la belle époque aussi, c'est sûr. J'avais l'album Panini en partenariat avec Fleury Mérogis, c'était super. J'avais un t-shirt, Xavier Bertrand, c'est le moment. Bon, même si là, j'avoue que Xavier Bertrand, il a un petit peu déconné.
J'aurais aimé qu'il vienne, qu'il se confronte à nous. S'il était vraiment attaché à la France et qu'il aurait vraiment voulu la faire gagner, il serait venu à la primaire, il serait venu débattre.
C'est un rebelle, Xavier Bertrand?
J'irai pas jusque là.
Non, on n'ira pas jusque là quand même. Non, c'est pas encore Lorenzo Lamas parce qu'il porte mal les cheveux longs en plus. Xavier Bertrand, j'ai déjà avec des cheveux longs, ça lui donne un petit côté secrétaire de mairie du Touquet.
Non.
Mais bon, puisqu'on est dans les rebelles et le panache, j'ai rencontré un jeune encore plus rebelle.
Écoutez, la droite du panache, ce n'est pas Xavier Bertrand et ce n'est pas Valérie Pécresse. Je pense que ça, on pourra totalement se l'avouer. Laurent Wauquiez est le seul aujourd'hui qui incarne
la vraie droite des valeurs au sein du parti.
Mais moi, je croyais qu'il fallait se réconcilier. Alors à droite, là, si vous commencez à clasher Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ça va peut-être pas le faire, non ?
Bah oui, mais là, vous avez dit droite, monsieur.
Pécresse et Bertrand, centre de gauche.
Bah oui, c'est évident.
Ouais. Bah c'est évident. Bah évidemment, Pécresse, elle boit du thé équitable. Enfin, c'est vraiment une zadiste, valoche, on pourrait dire. Quant à Xavier Bertrand, il a raté un gros week-end de déglingus. Hein. Dommage qu'il boude et qu'il continue à faire du chantage, parce qu'il aurait dû venir avec nous pour chanter quoi ?
On est de droite.
Vous avez pas le flow, c'est dommage.
Merci Guillaume Meurice. Moi vraiment je crois que vous êtes de la droite refoulée, c'est pas possible autrement.
D'être aussi... Ça m'a fait un bien fou ce week-end.
D'être aussi crédible dans ce rôle, vraiment, il y a quelque chose. Bon.
Je crois qu'ils m'ont acheté avec
leur cadeau. Merci Guillaume Meurice. Oui, ça va un tote bag les Républicains, je vais vous le voler. Julie Gaillard, notre compagnie, on va aborder cet autre sujet. Vouloir être devant les autres, est-ce que... C'est être
devant
mal éduqué
les autres.
Ouais, devant les autres. Je vais vous expliquer. La performance, est-ce que c'est un vilain défaut ou une qualité ? Et si c'est une qualité, la performance, est-ce que ça peut être un outil éducatif ? On se doute que pour Jean-Michel Blanquer, c'est oui. Mais je vois. Et c'est peut-être pour ça que Slate.fr pose la question. La compétition, est-ce qu'elle a tant de vertus qu'elle commence à l'école ? Indice.
J'ai vos devoirs. Ceux de la dernière fois. Il y a un souci, je pense qu'il y a une belle majorité d'entre vous qui n'a pas bien compris le concept d'abscisse et d'ordonnée. Écoutez, on va revoir ça.
Monsieur ?
Oui.
Vous pouvez donner les copies dans l'ordre des notes ?
Ah ouais, c'est bien ça.
Ouais, comme ça, ça permet de nous situer dans la classe, quoi, de voir notre progression, comment on évolue.
Écoutez, il faudrait faire un débat, là. Là, il faudrait faire un débat, mais on n'a pas le temps. On fera ça la prochaine fois, on va travailler plutôt.
Allez. Monsieur, il me semble que les élèves voudraient un débat, là.
De quoi je me mêle ?
Qui c'est qui est pour faire un vote sur le débat ? Bon bah je crois qu'il y a la majorité hein donc
Mais
t'es ouf toi
mais attends t'es totalement crypto-fasciste hein.
Mais c'est clair attends mais t'es ouf toi.
Mais attends mais le classement c'est la vie. Les forts ils doivent écraser les nuls.
C'est un extrait du film Les Beaux Gosses, le film de Riyad Satouf. Alors, première question qui est presque, qui est pas évidente, mais qui est presque philosophique. Une mère parfaite, comme dans la série.
Justement.
Est-ce qu'elle veut que ses enfants soient performants? Est-ce que la performance, c'est une forme de...
La mère parfaite que je joue dans Une mère parfaite, probablement. Mais là, après avoir passé ce joli... titre tout à l'heure sur le doute, j'aime les gens qui doutent de Anne Sylvestre. C'est vrai que l'idée du chemin d'y arriver, enfin de plutôt le beau jeu, j'allais dire, plutôt que le jeu pour réussir, ou voilà, on va apprendre bêtement et avoir des notes. Enfin, l'intérêt, c'est aussi de comprendre, c'est aussi le chemin, c'est aussi de faire. Enfin, moi, j'ai plutôt cette philosophie-là. Donc,
ouais, c'est pas la panacée.
C'est pas le. Et je croyais même qu'il était interdit, enfin, qu'on allait enlever les notes, que ça faisait partie de ses réflexions, d'éducation, de justement
mais
savoir.
Des gommettes, pas... avec des petits soleils à la place, c'était question à un moment. Non, mais vrai,
c'était pas forcément les notes.
Ouais, oui, c'est vrai. Quand on parle de performance, il y a aussi une locution qu'on entend souvent qui est performance d'actrice. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce mot-là ? Performance d'actrice ?
Non, performer ouais. Comme... sportif, grand sportif peut-être, ouais. Le fait de partir dans une... Mais alors, encore une fois, alors, il y a un concours d'éloquence qui existe dans la D1 féminine. On attend dans la D1 masculine, hein, le concours d'éloquence. Ça vient d'exister en foot. Donc les joueuses, les meilleures joueuses de France font un concours d'éloquence. Et il y a une des joueuses qui a parlé de ça, du beau jeu ou du jeu pour gagner. Et ça m'a fait tellement sourire, c'est pour ça que j'en parlais là. J'attends que les joueurs de foot se mettent à faire ça. Et on voit bien...
On parle de joueurs de foot éloquence, attention. Pour les joueuses, on est d'accord, mais joueurs, c'est plus dur.
Voilà, pardon. idée de notes ou de performance ou je ne sais pas, en fait c'est l'idée d'équipe, du jeu d'équipe, en tout cas moi j'aime les équipes et j'ai l'impression que quand je fais mon métier, je fais un métier d'équipe, donc avec un réalisateur, Fred Garçon qui est mon regard extérieur et qui était incroyable et qui a une vraie vision, avec Eden Ducourant, avec Thomas Sisley, je pense pas qu'on fait un film seul, il y a toute une équipe, là c'est une chef opératrice belge, Valérie Saint-Martin, que je salue, donc ça avait le regard d'une femme, ça c'est aussi assez rare, mais à l'image, au son, enfin voilà, la place des femmes.
Vous avez des souvenirs de compétition vous-même? Je ne sais pas si vous avez fait du sport. Est-ce que vous avez des souvenirs de compétition à l'école ou au sport ? Vous avez été déjà confronté à ça ou pas ?
J'ai fait oui, mais alors j'aime le. Je pense que c'est aussi une des choses qui est bien dans la Fondation des femmes, c'est qu'on fait la nuit des relais. C'est une course de relais. Mmh. On se passe le relais et on tourne autour plutôt que de se dire allez on va faire chacun un cours pour soi, on se passe le relais. Donc moi j'ai toujours été dans les sports d'équipe et j'ai toujours aimé ça. Et donc je joue au foot.
Mmh. Julie Gaillet. Thomas VDB, tiens.
C'est moi.
Ouais. Vous auriez un truc à nous raconter pour cette rentrée?
Ben écoutez, voyons voir tout de suite en espagnol. Joie, mi bémol, mi Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire en septembre, joyeux anniversaire.
J'ai senti.
Voilà, donc, oui, pardon, c'est vrai que c'est pas du tout joyeux comme anniversaire, mais
on
c'est la seule chance. C'est
on
la
est
seule
pas chance. Le 6 septembre?
Bah ben oui, oui, mais alors j'y viens.
Eh oui, c'est vrai. Moi, je suis perdu là,
je reconnais normalement les anniversaires, faut pas les souhaiter avant, ça porte malheur. Mais dans le cas présent, je vois difficilement comment on pourrait faire pire. Je pense que le mal est déjà fait de toute façon. Voilà, donc oui, j'ai chanté ça parce que c'est la seule chanson que je connais sur les anniversaires. 20 ans déjà, 20 ans, le 11 septembre. Moi, l'autre jour, ma nièce de 15 ans me dit comme ça, t'as vécu, tonton, le 11 septembre? Et j'ai dit, bah, comment je l'ai vécu, le 11 septembre? Et c'est vrai qu'en parlant, j'ai eu l'impression d'être un de mes tontons quand j'avais 9 ans et il me parlait de la guerre d'Algérie. Hein, c'est vrai que le 11 septembre de ma nièce, c'est un peu ma guerre d'Algérie. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que la guerre d'Algérie, j'en savais pas grand chose, mais je savais qu'elle avait existé grâce à mon oncle, qui était mon lien avec la guerre d'Algérie. Comme pour ma nièce, je suis son lien avec Al-Qaïda. C'est vraiment un petit lien comme ça. Et c'est vrai que ma nièce, elle m'écoutait, je peux vous dire, elle avait les yeux qui brillaient en m'écoutant lui parler du 11 septembre. Aujourd'hui, elle croit carrément que je suis une sorte de vétéran du 11 septembre, je pense. Du coup, j'en ai rajouté un peu, j'ai dit, t'as entendu cette déflagration dans ma télé, hein, parce que c'est vrai que le 11 septembre, c'est vrai que j'étais juste devant David Pujadas à faire c'est vrai qu'on a vu plus téméraire en termes d'efforts de guerre qu'un gars qui fait juste dans son canapé. Hein, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est quand même assez bien, je trouve, pour les commémorations du 11 septembre, c'est qu'il y a plein de nouveaux documentaires qui sortent, et ça, bah, c'est bien, parce que ça permet de penser à autre chose qu'au Covid. Et il y a le journaliste Grégory Phillips de France Culture qui a fait un super podcast de 10 fois 20 minutes, et je peux vous dire, je l'ai écouté en une après-midi dans le train. Vraiment, parce que c'est vrai que c'est un podcast quand même plus à écouter dans le train que dans l'avion. Et je peux vous dire, le podcast est vraiment super, hyper bien détaillé. Et moi, après 3h20 de podcast, moi, le soir, je suis chez moi et je dis à ma compagne, on regarde un truc, je sais pas, sur Netflix ou quoi. Et elle me dit, ouais, on peut regarder La Casa des Papel. Ou sinon, elle me dit, il y a Turning Point. Et je dis, bah, c'est quoi ça, Turning Point? Elle me dit, Turning Point, le 11 septembre et la guerre. Je fais, Turning Point! Turning Point! Le 11 septembre! Et là, je rallume la machine, 5 épisodes de 1h. Et là, je peux dire, ça raconte minute par minute comment se déroule la journée. C'est à tous les trucs, 8h10, les terroristes embarquent à Boston. Et c'est vrai que là, à un moment, t'as le moment où il est 8h46, et pour la millième fois, il te remonte l'image du premier avion qui rentre dans la tour, tu fais pouf, pouf. Et là, c'est vrai que c'est atroce, mais le premier truc qui me vient en tête de me dire à ce moment-là, c'est pouf. On ne s'en lasse pas. Enfin, c'est pas vraiment, le mot est mal choisi. Mais c'est vrai que l'effet de surprise marche à chaque fois quand même. Et c'est vrai que tout est terrifiant dans ces images. Mais à commencer par le fait qu'à chaque fois qu'on les revoit, c'est comme si c'était la première fois. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je suis là, pacha, facha, facha. C'est une chronique avec beaucoup d'onomatopées. Je l'ai pas dit, mais c'est le premier avion, brouf, moi, poyoyoy. Deuxième avion, pacha, facha, facha, voilà. Et c'est vrai que c'est horrible parce que le doc, ben, il te permet vraiment de revivre ça comme si c'était la première fois. Quoi. Moi, je regardais le truc, j'ai pourvu qu'elle s'effondre pas les deux tours. Bah, tellement j'étais vraiment dans le truc. Parce qu'il te redonne tous les scoops comme si c'était des infos qu'on savait pas déjà. Genre, et très vite, les regards se tournent vers un premier suspect, Oussama Ben Laden. Moi, je suis là, ah ouais, j'aurais jamais imaginé, tu vois, vraiment. Vraiment, j'ai tellement revécu le truc que le lendemain, je me suis réveillé, je pensais qu'on était le 12. Tu vois, franchement, on était le 12 septembre. Et quand tu penses, les gars de BFM et CNews n'existaient pas à l'époque. Les gars des chaînes, aujourd'hui, ils repensent au septembre, ils doivent se dire, oh non, mais les éditions spéciales de ouf qu'on aurait fait! Je vais être bien dégoûté, je peux te dire. Et c'est vrai que c'est bizarre de regarder finalement, de regarder ces documentaires sur le 11 septembre, parce qu'on se rappelle par cœur ce qui s'est passé. C'est vrai, souvent, sur le 11 septembre, on dit never forget. Mais en vrai, c'est remember well, le 11 septembre, on se souvient bien. C'est pas un truc qu'on est prêt d'oublier. Rien que le fait que les talibans, ils récupèrent Kaboul le mois dernier, ça pouvait faire office de pense-bête, pour pas oublier. Hein, pour les têtes de linotte. Ben, comme ça, on n'oublie pas. C'est vrai que je crois, moi, ces images, elles nous aident à faire face aux difficultés du présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens, ils râlent, ils disent, ouais, moi, je peux pas aller voir au SS-117 parce que j'ai pas eu ma deuxième dose. Je dis, ah, bah, arrête de râler, il y a 20 ans ça, des gens étaient obligés de sauter par la fenêtre tellement il faisait chaud dans leur bureau. Alors, relativise, mon pote! Alors vous allez me dire, bon, je compare deux choses qui sont pas vraiment comparables, c'est vrai. Mais je vous rappelle que je fais ce que je veux.
C'est l'époque, hein.
C'est l'époque. Et puis c'est vrai que le 11 septembre, bon, bah, c'est quand même une catastrophe qui a duré qu'une journée. Et c'est vrai que comparé au Covid, qui dure depuis 2 ans, c'est plus facile à résumer dans un documentaire. Parce que c'est une sorte de catastrophe express. C'est vrai, imagine dans 20 ans, il y a un documentaire qui résume 2 ans de Covid, minute par minute. Oh, bah, alors, et qu'on sera obligé de regarder pour relativiser les catastrophes du futur, en plus. Alors, j'imagine, je vais regarder les trucs, je vais être là. Fa, 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 fa. Comment c'est long. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le variant mu qui est arrivé, grand merci, la commémoration du 11 septembre, la mort de Belmondo qu'on apprend aujourd'hui, le procès du Bataclan, parce que c'est vrai que le 13 novembre, c'est quand même un peu le variant français du 11 septembre, bah, n'oubliez pas de faire ménager, quand même, de ménager un peu de temps pour vous, parce que par exemple, pour faire des exercices de pensée positive. Il y en a plein sur Internet. Voilà.
Thomas VDB, merci et bravo, parce que bon, Romain Gary dit l'humour démine le réel, vous avez bien déminé.
Je voulais déminer le réel.
Bah, je vous félicite, parce que moi, j'ai jamais réussi. Avant, je réussissais pas du tout à rire du 11 septembre, et là, vous avez réussi. Bah oui, c'est vrai. Et puis là, je pense que vous avez réussi.
C'est pas rigolo.
Et c'est pas facile. Bah, c'est pas facile, mais on a ri, et ça fait du bien. Merci beaucoup, Thomas VDB. On peut vous réécouter ou vous revoir si ça fait du bien. Julie Gayet avec nous. On va aborder ce dernier thème. Il y a Amazon, Disney ou Netflix et même YouTube qui se sont entendus avec les fabricants de télévision, et chacun a son bouton sur les télécommandes. Le pavé numérique, dont TF1, par exemple, le 1, est relégué ou a disparu, ce qui change l'usage et influence nos choix. Alors, c'est une page qui est parue dans le Figaro aujourd'hui. On lit même le Figaro, ça veut dire ça, c'est Guillaume.
C'est fou,
pour
hein.
Ça. Ouais, l'article est intitulé « Comment les chaînes françaises perdent la bataille cruciale de la télécommande ». Et je m'adresse ici à la productrice de films aussi, sachant aussi que tiens, la série dans laquelle vous jouez une mère parfaite, c'est TF1 plus la ZDF, c'est ça, c'est la télévision allemande, c'est une coproduction avec un rachat Netflix. Cette manœuvre grossière des fabricants de plateformes qui mettent des gros boutons sur les télécommandes, est-ce que c'est vraiment, ça prouve que ils ont des armes contre lesquelles on ne peut pas lutter, c'est difficile.
Mais c'est certain que là, en tout cas, on parlait du confinement, du Covid et de ces deux années qu'on vient de passer, les choses ont accéléré. Les fonctionnements, les utilisateurs maintenant ont des accès plus faciles, comprennent comment fonctionne la télé connectée. Et c'est donc de ça dont il s'agit, parce que c'est les télé connectées où on va avoir un bouton, un gros bouton. C'est une vraie question de comment on va pouvoir produire des films un peu plus fragiles aussi, ou ces films du milieu, même par rapport au cinéma, puisque ça a été la question de savoir si on accepte les films à Cannes, les films qui sont des films Netflix ou Amazon, les Oscars, toutes ces questions-là. Donc, moi, j'ai... Alors, pas de réponse. On est malheureusement... On vit ça et on se dit qu'il faut peut-être prendre des leçons de la musique qui a été percutée par le numérique très fort avant nous. Et j'ai eu envie de créer un événement qui s'appelle Sœurs Jumelles à Rochefort. Et c'est des discussions entre le monde de la musique et le monde de l'image. Et l'image avec très largement, c'est-à-dire justement le cinéma, mais aussi la série, parce que la série télé, la série HBO, la série américaine, a changé complètement aussi le cinéma, la façon de faire du cinéma, parce que c'est devenu une grosse demande. Bref, j'ai eu envie de faire que ça se discute et qu'on se pose des questions. Le jeu vidéo, là, a explosé. Donc, il y aura peut-être le gros bouton bientôt pour le jeu vidéo.
Effectivement. Et donc, coproduction TF1 et la télé allemande, TF1, c'est devenu Arte.
C'est peut-être pas joli à résumer, mais...
Des fois, c'est pas faux, hein, quand on regarde ce qui se passe ailleurs.
Disons que le droit d'auteur est en danger, en tout cas, avec l'arrivée de Netflix. Ça, c'est certain.
Juliette Arnaud, un questionnaire pour Julie Gayet.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des mères de fiction qui ont la vie pas facile avec leur progéniture, 10 étant la mère d'Anthony Perkins, donc du meurtrier psychopathe dans Psychose, et 0 étant l'assis chien fidèle qui ne s'est pas reproduit, donc tranquille ou bilou, à combien situez-vous votre personnage ?
Oula.
Dans une mère parfaite. Bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr. Oh bah... fidèle.
Plus 2, 3. Ouais, moi j'en avais jusqu'à 5. Pour quel défaut de mère avez-vous le plus d'indulgence ?
Culpabilité.
Comment expliquez-vous que toutes les femmes savent à quoi sert le Viagra et aucun homme ne sait épeler endométriose ? J'ai une petite idée de la réponse, mais allez-y.
Ah là là, ça me fait très plaisir. Bah voilà, c'est une maladie de femme. Ça touche les règles. Il y a beaucoup de sujets comme ça. On se passe un petit Tampax comme ça, comme si c'était une drogue dure. Ouais, t'as pas un Tampax. Comme si c'était très honteux. Ça reste compliqué de parler des règles.
Vous qui êtes mère, qu'est-ce qui rime le mieux avec perfection ? Perfection comme dans Mère Parfaite. Ambition ou piège à con ?
Piège à con.
Ça rime pas, mais c'est mieux. Exercice de fiction. Mettons qu'on soit reconfiné. Avec quel personnage de fiction accepteriez-vous facilement de l'être ?
Avec quel personnage de fiction? Oula.
Belmondo dans...
Peut-être.
Un sage en hiver.
Belmondo. Quel personnage de fiction?
Difficile.
Ouais, non, c'est difficile. Je ne sais pas. Bon.
Alors, on va rester là-dessus.
Je suis pas très dans la fiction, en fait, je crois.
Ah oui. Julie Gaillet, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie.
Vite.
Oui, ça passe très vite.
Moi, je veux réécouter la chronique de Thomas VDB.
Ah, oh, eh ben, c'est possible.
On va en podcast.
Ou en vidéo, effectivement.
Mais vraiment. Il y avait eu, après le 11 septembre, une collection de courts-métrages comme ça, et Sean Penn avait fait un court-métrage. Je ne sais pas si vous aviez vu...
Pas du tout.
Voilà. Et le podcast de France Inter également. Et la série Une mère parfaite avec Julie Gaillet à voir prochainement sur TF1. Merci beaucoup. Je vous dis à demain les amis. Nous recevrons le dernier prix Goncourt, Hervé Le Tellier. Et que lui dirait le bébel du magnifique?
Vous avez lu mes chefs-d'œuvre?
Évidemment.